Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. J'espère que vous allez bien en ces périodes vraiment très compliquées. Et oui, après l'absence de la semaine dernière, je suis de retour, et non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous délivrer les news qu'il ne fallait pas manquer. J'en bafouille, c'est l'émotion. On est tous un peu décalés en ce moment, on ne sait plus, les horaires, tout devient très compliqué. J'aimerais, avant d'attaquer cette émission, avant de vous apporter une belle brochette de news et un beau sujet de derrière les fagots, crier mon amour pour Final Fantasy VII Remake, que j'ai fini. Là, je suis en train de faire les quêtes annexes que je n'avais pas terminées. Vraiment, je vais aller très vite parce que c'est pas une émission de test ou de review ou de critique, mais je peux pas passer à côté. Voilà, j'ai pleuré de joie devant mon écran, quasiment d'un bout à l'autre. C'est extraordinaire ce qu'a réussi à faire Square Enix, voir la saga revenir à ce point. C'est ce qui est paradoxal aussi, c'est revoir Final Fantasy revenir à ce degré de qualité avec un remake d'un épisode mythique, mais c'est malgré tout plus qu'un remake, c'est vraiment une réinterprétation, c'est une réécriture, c'est une relecture. Ça tient vraiment du miracle, vraiment le boulot est énorme. Je pense que là on tient encore un nouveau standard en matière de remake, comme l'a pu l'être le Resident Evil remake sur GameCube et pas Rebirth. Il ne s'appelle pas Rebirth, je le précise à nouveau. Bref, de développer à ce point les personnages, d'étoffer le lore de cette manière, c'est incroyable, et de vivre comme jamais ce que ressentent les habitants des bidonvilles de Midgar, c'est assez impressionnant. Le système de combat est incroyable, il fait la synthèse entre l'action RPG et le vieux système d'ATB, il est grisant en tout point, c'est du bonheur, les réorchestrations, là on tient pour moi déjà la bande-son de l'année, l'une des plus belles bandes-son de la galaxie, la mise en scène est extraordinaire, vraiment vraiment je pourrais en parler des heures, c'était une grosse sac. Alors oui, il y a des défauts, oui il y a certains donjons où on sent vraiment qu'ils ont étalé la confiture jusqu'à plus soif, il y a une certaine linéarité, redondance dans certains donjons. Oui, il y a beaucoup de modernité dans ce remake, et en même temps qui se confronte à une certaine écriture de l'époque. Alors moi ça ne m'a pas du tout gêné, mais je sais que ça pourra en gêner certains. Il y a le fameux souci de certaines textures, parce que le jeu est extrêmement beau, vraiment c'est magnifiquement beau, il y a des panoramas vraiment qui vous mettent sur le fion, et parfois vous avez des textures qui sont bizarrement vides, mais souvent ce sont que quelques gouttes d'eau dans un océan de bonheur. Bref, voilà, j'avais envie de crier mon amour sur Final Fantasy VII Remake. Bon, allez, j'en ai assez parlé, et on passe tout de suite à la brochette de news. Commençons cette brochette de news avec Microsoft qui dépose un logo Xbox Series X. C'est Jarod qui nous en parle sur GameCult et qui nous dit qu'alors que les rumeurs parlent d'un événement en mai dédié aux présentations des consoles et jeux nouvelle génération, aussi bien du côté de chez Sony d'ailleurs que donc de chez Xbox, un logo, donc un joli petit logo, a popé Xbox Series X, déposé donc par Microsoft. Tout l'internet s'est précipité dessus pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Alors en audio, c'est pas forcément évident de vous faire une idée, vous l'avez déjà sûrement vu passer, le lien de la news sera dans la description de l'émission bien sûr. Alors, on va quand même prendre quelques petites pincettes d'usage, puisque la news nous dit que ce logo est absent de toutes les ressources visuelles de la console que Microsoft a pu partager jusqu'ici. Néanmoins, il est bien issu d'une marque déposée très officiellement par le constructeur. Donc ce logo présente un X qui semble davantage scindé que celui présent sur les emballages de la Xbox One X, et le terme Series aligné verticalement sur la gauche. Écoutez, il a une bonne tronche, il est simple, il est rudimentaire comme il faut. Je trouve assez classe, personnellement. Voilà, donc vous vous ferez votre idée. La communication des deux constructeurs, évidemment totalement bouleversée par la crise du coronavirus, s'adapte au fur et à mesure. Donc chacun avance ses pions, chacun attend de voir ce que va faire l'autre. C'est vrai que c'est surtout Sony en ce moment qui attend de voir un peu ce que fait Microsoft. Bon, affaire à suivre, comme on dit, dans les rédactions professionnelles, journalistiques des hautes sphères. On reste dans la galaxie Xbox, puisque Red Dead Redemption 2, formidable jeu que j'ai adoré, vous le savez si vous suivez l'émission, arrive dans le Xbox Game Pass pour console. Oui, c'est JV.com qui nous parle de ça. Le Xbox Game Pass pour console va commencer le mois de mai en beauté, nous dit-on, en accueillant Red Dead 2. Hein. Il remplacera un autre jeu de Rockstar, GTA V, donc hein, le 7 mai. Donc c'est une annonce qui concerne uniquement les joueurs Xbox One. Notez qu'il est possible, hein, nous dit la news sur GV.com, de pré-télécharger le jeu en vous rendant donc sur l'application mobile Xbox Game Pass. Le site nous signale aussi, hein, à ceux qui ne possèdent pas encore GTA V, qu'ils peuvent profiter d'une réduction de 20% en qualité d'adhérent Xbox Game Pass. Pour rappel, d'autres ajouts sont prévus d'ici au 7 mai sur le Xbox Game Pass, Gears Tactics le 28 avril, Hyper Dot le 30 avril, Level Head le 30 avril, Street of Rage 4 que j'attends. Alors c'est bizarre de dire Street of Rage avec l'accent et dire 4 derrière, donc soit je dis Street of Rage 4 mais ça fait bon, ou Street of Rage 4, ça va un peu bizarre. Bon, moi je coupe la poire en deux, Street of Rage 4, donc 30 avril. Yakuza Kiwami a quant à lui déjà débarqué, foncé sur Yakuza, je ne le répéterai jamais assez. Et vous avez aussi Deliver Us the Moon qui est également dispo en ce moment. Dead Cells, c'est de la drogue dure. Dead Cells, c'est le roi du game feel. Ça a été mon jeu de l'année, l'année de sa sortie. Et c'est toujours l'un de mes jeux préférés de la vie. Dead Cells, c'est absolument fabuleux. Bref, Nintendo Différence nous dit qu'une mise à jour Bestiary Update sera disponible en mai sur console. Cette mise à jour ajoute 10 nouveaux succès, 6 ennemis inédits. Ça c'est intéressant, 11 nouveaux affixes pour les compétences actives, 8 autres normaux et 3 autres comme le pétrole et le feu qui peuvent notamment se propager lorsqu'un piège déployable est détruit, 2 nouveaux objets, le pied de biche servant à porter des coups critiques après avoir cassé une porte et la porte portable qui sert de bouclier arrière. Il y a aussi des nouveautés basées sur le DLC The Bad Seed, à savoir des salles inédites, des secrets, des nouveaux ennemis, bref. Tout est listé sur toujours l'excellent Nintendo Différence. Comme d'hab, le lien de cette news sera dans la description de l'émission. On va rester sur Nintendo Différence d'ailleurs, puisque événement, vous le savez, je l'ai toujours dit, pour moi Super Mario Maker est la plus belle lettre d'amour faite aux fans de Mario. La version Wii U qui était plus pratique, hein, clairement avec le gamepad, c'était quand même plus pratique. Mais Super Mario Maker 2 est extraordinaire. Et maintenant, la nouvelle et dernière mise à jour est disponible depuis quelques jours et au-delà d'ajouts très intéressants, là pareil je vous renvoie à la news de Nintendo Différence que je mettrai en lien, notamment la possibilité de jouer à la Mario Bros 2, à la Super Mario USA, hein, pour pouvoir soulever les ennemis, des objets, pas mal de petites choses, des ennemis, les sbires de Koopa, plein de choses ajoutées, toujours, c'est la fête quoi, c'est surtout le monde World Maker, hein, créer un super monde qui est ajouté, et là c'est le fantasme de millions de fans de Mario, dont je fais partie, puisque ce nouveau mode, nous explique hein, Nintendo Différence, permet de lier plusieurs niveaux sur un même chemin, allant du point de départ sur une carte du monde au château du boss final. En clair, vous pouvez créer jusqu'à 8 mondes différents dans le style de Super Mario World avec un total de 40 niveaux sur 8 mondes. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir, créer vos maps de Mario, créer votre petit Super Mario et le partager ensuite avec le reste du monde. Voilà, c'était vraiment ce qu'on attendait depuis, en tout cas les fans de Mario Maker 2, enfin de Mario Maker d'une manière générale, c'est ce qu'on attendait vraiment depuis déjà la première version, pouvoir créer son mini Super Mario. Et ben c'est chose faite, c'est extraordinaire. Alors là au moment où je vous parle, je n'ai pas encore eu le temps de m'y essayer, ça va peut-être prendre, je ne sais pas, des mois, mais je veux vraiment faire aussi mon petit Mario, et c'est le fantasme absolu, vraiment, je me revois jeune homme tombant totalement amoureux de Super Mario World. Je me dis que le moi du passé aurait appris ça, mais il en aurait une crise cardiaque de bonheur, quoi. Donc, voilà, foncez. Rappelons que Super Mario Maker, donc sur Wii U, et donc le 2 sur Switch, il y a une version 3DS aussi, c'est vraiment une leçon pour beaucoup de level design, hein, de game design, c'est impressionnant. Ça peut, aux joueurs confirmés, leur permettre de faire leur niveau, d'étudier plus profondément ce qu'est l'école Mario 2D. Et pour ceux qui veulent s'essayer donc au level design, c'est extraordinaire. Pour aussi, par rapport aux plus jeunes, leur montrer un petit peu comment ça fonctionne, c'est aussi extraordinaire. C'est un moyen absolument génial de créer tout en jouant, de laisser libre cours à son imagination. Pour cette dernière mise à jour, vraiment Super Mario Maker 2 nous régale et pas qu'un peu. On va rester chez Nintendo, puisque, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, mais faites attention, 160 000 comptes auraient été piratés, hein, avec des informations personnelles volées, des achats frauduleux. Bref, c'est GamerGen.com hein, qui nous parle de cela. Il y a eu, il y a une semaine, ces derniers jours même, hein, une grosse vague de piratage sur les comptes Nintendo, notamment pour des achats frauduleux de V-Bucks, hein, la monnaie dans Fortnite. Vous googlisez ça, vous allez trouver ça très très vite. Hein. Nintendo a donné des premières explications, même si incomplètes, des marches à suivre si votre compte a été piraté. Alors normalement, si vous avez été victime hein, de piratage, nous dit GamerGen.com, hein, vous allez normalement recevoir, si ce n'est déjà fait, un email vous demandant de changer votre mot de passe. D'après ce que j'ai pu voir, c'est surtout des comptes affiliés PayPal et aussi, donc l'arnaque se faisait via le PayPal, à voir si ça s'est fait aussi via des numéros de carte bancaire simplement. Il y a aussi vraisemblablement un problème avec des anciens identifiants Nintendo qui datent peut-être de la Wii U, de la 3DS, qui ont été rattachés à votre Switch. Bref, regardez, le mieux que je puisse vous dire, c'est d'aller voir si vous n'avez pas eu des prélèvements frauduleux, suspects, des tentatives de connexion. Regardez si Nintendo vous a pas envoyé un mail en ce sens. Et puis, si vous avez un doute, ça mange pas de pain de changer voilà, son mot de passe, etc., de reverrouiller bien tout ça. Voilà. En tout cas, je tenais à vous prévenir là-dessus aussi cette semaine. Pour le sujet de la semaine, alors c'est le sujet qui était prévu déjà la semaine dernière. Si vous me suivez sur Twitter, sur les réseaux sociaux d'une manière générale, vous savez, il y a pas eu. Enfin, si vous êtes abonné de toute façon l'émission, vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y avait pas d'émission. Voilà, la période est très compliquée pour moi en ce moment. Mais on tient bon, hein, on va finir cette saison avec panache et robustesse. Et donc c'était un papier du Monde signé Corentin Lamy, toujours l'excellent Corentin Lamy. Que j'avais envie de vous livrer directement dans vos esgourdes la semaine dernière. Donc, je me suis gardé le papier au chaud pour vous en reparler là, cette semaine. C'est un papier qui parle encore des conditions parfois très compliquées dans les studios de jeux vidéo. Plus précisément, le papier est intitulé « Jeux vidéo, ; derrière l'explosion de la pratique, une réalité pas toujours rose pour les studios hein ». Corentin Lamy nous dit que si les studios de jeux vidéo s'adaptent plutôt bien au télétravail en ce moment, hein, période Covid oblige, l'annulation des salons et l'incertitude concernant les sorties de fin d'année rendent les projets difficiles. Que faire, nous dit-il, quand on est enfermé chez soi, nous demande-t-il même plus précisément, que faire quand on est enfermé chez soi depuis des mois, sinon lire, regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéo. Nombreux sont celles et ceux à avoir installé ces dernières semaines un jeu sur leur téléphone mobile ou sur leur ordinateur. Fin mars, le nombre hebdomadaire de téléchargements sur mobile a atteint un plus haut historique à l'échelle mondiale, 1,2 milliard, soit une croissance de 60%. C'est assez vertigineux quand même. Hein. Donc le journaliste poursuit en nous expliquant que cette croissance concerne tout type de jeu sur tout type de support. On a doublé le nombre de joueurs sur Transformice, je ne sais pas comment on le prononce, je ne connaissais pas ce jeu, je vous avoue. Se félicite donc Mélanie Christin du studio nordiste Atelier 801. Donc Transformice, je vais l'appeler comme ça, est un jeu accessible gratuitement sur navigateur et se finance via la vente de bonus cosmétiques. Il faudrait que je jette un œil sur ce jeu, je ne le connais pas. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à m'en parler hein, en commentaire, sur les réseaux sociaux, sur le Discord. Bref, mais à quel point, autre question que se pose Corentin Lamy, mais à quel point l'industrie et les studios de développement vont-ils profiter de cet essor ? Julien Villedieu, délégué général du syndicat national du jeu vidéo, hein, le SNJV, nous dit, je cite, « On se disait que le jeu vidéo ne serait pas impacté, on a vu certains nombres d'articles parler de chiffres d'affaires records. Mais on constate au bout d'un mois que la réalité est moins rose qu'envisagé. L'impact sur la filière risque d'être assez important à court et moyen terme. » Ça, c'est ce qu'il expliquait au Monde déjà le 14 avril dernier. Alors, que se passe-t-il ? D'abord, nous dit le journaliste du Monde, parce que la fermeture des boutiques spécialisées et la relative désertion des grandes surfaces ne sont pas sans conséquences. Julien Villedieu nous rappelle, je cite à nouveau, « Les sorties physiques continuent d'être importantes pour certains jeux. » Et oui, c'est vrai que vous comme moi, on passe facilement du démat au physique, mais pour certains, le physique, ça reste quand même très important, même si on en a parlé hein, pas mal de fois dans l'émission, la place du démat est assez impressionnante, de plus en plus impressionnante au fil des mois, et cette crise Covid-19 ne fait que renforcer tout cela. Bref, le papier du Monde poursuit en nous disant que si les développements en eux-mêmes ne sont pas menacés, la sortie des jeux peut être décalée alors que la perspective de rater une partie du public effraie jusqu'au plus gros. Un exemple, hein, The Last of Us Part 2, développé par Naughty Dog, pourtant soutenu par Sony, initialement prévu pour le 29 mai, a finalement été repoussé au calendrier grec. Ces éventuels retards pourront aussi concerner des jeux prévus pour la fin de l'année. Et oui, entre la Xbox Series X de Microsoft et la PlayStation 5 de Sony, le dernier trimestre 2020 doit être en effet marqué par la sortie d'une génération de consoles plus puissantes accompagnée de titres, si c'est possible, exploitant leur nouveau potentiel technique. Sauf qu'entre les problèmes logistiques et l'éventualité d'une récession, eh ben la perspective de voir sortir ces consoles en même temps et en heure, ça me nuise. Oui, Julien Villedieu nous dit qu'il se peut que les jeux prévus pour les nouvelles consoles soient décalés eux aussi. Des sociétés vont devoir taper dans leur trésorerie, et on sait que dans le jeu vidéo, elle n'est pas toujours très importante. Bon, l'article poursuit en nous expliquant que, en plus des projets en cours, ce sont aussi les projets qui n'existent pas encore qui interrogent. Car entre les annulations de la Game Developer Conference de San Francisco en mars et de l'E3, bien sûr, les développeurs ont vu disparaître les opportunités de rencontrer des éditeurs, d'établir des contacts, des investisseurs, etc. etc. Le SNJV lui-même a annoncé ce mardi 14 avril l'annulation de son Game Camp de juin, un rassemblement professionnel qui se tient tous les ans à Lille. Adrien Larouzé, en charge de la production de jeux vidéo chez Arte France, regrette, je cite, les rencontres fortuites qui n'ont pas lieu sur ce premier semestre et qui se sentiront un peu plus tard. Tandis que Frank Fitzik, développeur indépendant, souligne, je cite, les négociations avec des clients étrangers sont mises en pause, hein, et il craint que le trou d'activité arrive peut-être paradoxalement après la fin du confinement. L'article, en outre, nous dit que même la Gamescom, le plus gros salon du JV d'Europe, prévu à Cologne pour le 25 août, n'est pas à l'abri d'une annulation. Et entre-temps, on le sait, c'est l'État qui a décidé, la Gamescom est également annulée. Alors en attendant, les travailleurs français du jeu vidéo s'adaptent. Souvent indépendants ou employés au sein de structures modestes, ils sont rompus au télétravail et nombreux sont ceux qui confessent sereinement le confinement. La plupart des autres expliquent avoir trouvé un rythme normal, après avoir eu, je cite, « un peu de mal à retrouver leur marque », comme témoigne Thomas Altenberger, développeur du jeu Scourgebringer. Fred Lopez, PDG d'Alt Shift et développeur de Crying Suns, regrette tout au plus, je cite, certaines phases de conception qui allaient généralement plus vite grâce aux petits ajustements mutuels. Pour Adrien Larouzé, l'adaptation a été relativement facile, je le cite, mais il faut s'y préparer, nous dit-il, il y aura des retards ici et là liés au travail à distance. Omar Slimani, producteur associé chez Ubisoft sur Tom Clancy's Elite Squad, trouve, je le cite, que les interactions, les discussions sont plus rigides et moins spontanées, bien sûr en télétravail. Les infos ne circulent pas du tout de la même manière. Un point qui reste compliqué en télétravail, c'est le QA. Ça, c'est un autre employé d'Ubisoft qui le souligne. Oui, l'assurance qualité nécessite en effet de recourir massivement à des kits de développement, souvent des versions de travail, des consoles qui sortiront à la fin de l'année, peu nombreux et encore confidentiels. On essaye de trouver des solutions VPN, mais c'est la merde, je cite, à mettre en place, détaille cet autre employé d'Ubisoft. Malgré tout, détaille l'article, plusieurs évoquent le travail absolument incroyable du service technique de leur entreprise grâce auquel la transition vers le télétravail global s'est faite en douceur. Des témoignages parfois enthousiastes que tempère Judy Kael, Live Lin, développeuse pour Asmodee Digital, qui nous dit « Dans le fond, ça ne change rien, mais au final, j'oublie de faire des pauses et je prends des mauvaises postures. » Une tendance à en faire trop aussi qu'à noter Léonard Carpentier du studio Plaireion. Il nous dit « Les chefs d'équipe doivent donner l'exemple car c'est facile de se laisser aspirer quand on ne voit pas les autres partir. » Comme d'autres, Plaireion s'est déjà essayé au télétravail dès le mois de décembre à l'occasion des grèves de la RATP. « Ça nous a permis d'essuyer les plâtres sur un taux d'absence de 30 à 50%, » nous dit-il. Les difficultés, ce sera le dernier chapitre, si je puis dire, dernier passage, dernier paragraphe de cet article, c'est pour les freelances, oui, puisqu'il y a le moral. Christophe Galati, développeur de Tazukete, Taco-san, Sev, Mi, Mister, Taco, j'espère que j'ai bien prononcé, avoue, je cite, que les procédures qui avancent au ralenti et les salons annulés donnent un peu le sentiment d'une année off, même s'il se félicite de pouvoir écrire beaucoup plus. Jiro Zucchini, développeur du jeu indépendant, un pas fragile et excellent youtubeur d'ailleurs, je vous vraiment incite à voir sa chaîne YouTube. nous dit « Petite baisse de morale à force de s'inquiéter pour tout le monde, mais ça va mieux. » Il se félicite de pouvoir écrire beaucoup plus. Il travaille sur son jeu Buisson d'ailleurs en ce moment, je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. Bref, ça c'était la petite parenthèse. L'article nous dit que sans parler, comme partout ailleurs, de la difficulté des parents de concilier vie professionnelle et vie familiale, c'est pas évident, je le confirme, comme Nicolas Bétou, développeur de Micromages, Micromage, on en a parlé dans l'émission, je te salue encore Nicolas, car j'ai eu la chance d'avoir une version de ce jeu qui est vraiment ultra fun et très sympathique, et lui souligne une inévitable baisse de régime. L'article est parachevé par ces quelques phrases. Corentin Lamy nous dit que davantage que dans les studios forcés au télétravail, c'est paradoxalement pour les freelances en réalité que la situation est la plus difficile. Il y a de moins en moins de clients, les carnets de commandes de prestataires sont vides. C'est ce que souligne Julien Villedieu et qui explique que le SNJV essaye pour compenser de faire jouer la solidarité sur ses réseaux, notamment à travers un Discord. Voilà, un nouveau, un excellent papier de Corentin Lamy. Quel que soit le domaine professionnel dans lequel vous évoluez, quelle que soit votre situation, télétravail, chômage partiel ou autre, je vous souhaite, quoi qu'il arrive, bon courage. On ne sait pas trop comment ça va se passer avec ce déconfinement, surtout avec une communication qui est assez bancale et contradictoire d'un jour à l'autre, mais je n'en dirai point plus, ce n'est pas l'endroit pour parler de ces choses-là, mais c'est un peu compliqué. Voilà, en tout cas, un papier du Monde dans la rubrique Pixel, toujours de grande qualité, et je l'ai répété plein de fois, mais oui, le lien sera dans la description. C'est ainsi que cette émission se termine. J'espère qu'elle vous apportera panache et robustesse en cette période un petit peu compliquée. J'aimerais aussi vous dire que j'ai eu l'honneur et le bonheur d'être invité dans l'émission Screenplay. C'est un podcast, Screenplay, qui fait partie donc de la bannière ô combien célèbre VHS et Canapé. Donc c'est Creepers et Rano qui m'ont fait la gentillesse de m'inviter pour parler de Resident Evil, le premier jeu, la série en général, et aussi les films. Donc c'est de la bonne humeur, on rigole, il y a de l'amour, il y a de la vanne, surtout pour les films, je vous cache pas. Donc j'ai vraiment passé un super moment, 2 heures vraiment, je pense qui vous feront du bien, une bonne émission. Donc ça s'appelle Screenplay, VHS et Canapé, c'est disponible donc sur leur flux, et je remercie à nouveau donc Creepers et Rano pour leur invitation, j'ai vraiment passé un super moment. J'aimerais remercier à nouveau les tipeurs, merci vraiment pour... c'est vrai que ces derniers temps c'est un peu compliqué et vous êtes toujours au rendez-vous et vraiment ça me touche beaucoup. J'aimerais remercier Bertrand Amar, merci mon Bertrand. J'aimerais remercier Neo Calimero, Pipo Letsu, Trifon, Sibidiju, Electrotactics, Tofo, B, Yvan, Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifraise, X, Nili, Carnoct, Lutherian, Azas, Le Kouanet, Evolix, JP Madère, l'incontournable Monsieur A, et j'aimerais remercier aussi les patrons du Patreon, car on a aussi un Patreon, tous les liens sont dans la description. J'aimerais remercier Gontran et Tonton Bernard. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à la semaine prochaine, faites attention à vous, à vos proches, portez-vous bien, je vous fais de gros bécos, et je vous dis à tantôt. Bye bye.